Épître aux Galates, chapitre 4.
Lecture de la parole. Or je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père !» de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et, si fils, héritier aussi par Dieu. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore de rechef être asservis? Vous observez des jours, et des mois, et des temps, et des années. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère. Je vous en prie, vous ne m'avez fait aucun tort, et vous savez que dans l'infirmité de la chair je vous ai évangélisé au commencement, et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Quel était donc votre bonheur? Car je vous rends témoignage que, si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. Je suis donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ils ne sont pas zélés à votre égard comme il faut, mais ils veulent vous exclure afin que vous soyez zélés à leur égard. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien, et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous, oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, et c'est Agar. Car Agar est le mont Sina en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle l'est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. » Or vous, frère, comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. Ainsi, frère, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre.
Lecture de l'étude. Nous avons déjà passé en revue l'admirable contraste donné par le Saint-Esprit dans la dernière partie du chapitre précédent entre les promesses et la loi, montrant qu'elles sont entièrement distinctes, non seulement quant à la date et aux circonstances, mais encore dans leurs principes, leur caractère et leur but. Sur un point, naturellement, elles s'accordent, c'est qu'elles sont toutes deux venues de Dieu. Mais alors, l'objet pour lequel Dieu les a données était aussi différent que possible. Ses promesses étaient le fruit de son propre amour, de son propos de bénir, de sa joie à bénir, et cela non seulement à l'égard des Juifs, mais aussi à l'égard des gentils. Et nous avons vu qu'un accent particulier était mis sur ces promesses qui furent faites à Abraham d'abord, puis à Isaac, et qui établissaient formellement sur ce point que les gentils seraient bénis de Dieu. Le fait remarquable que le Saint-Esprit fait ressortir, c'est que là où il y a une promesse absolue de bénédiction pour les gentils, il n'y a aucune allusion à la nombreuse postérité d'Abraham, si fréquemment mentionnée dans l'Écriture. Mais que lorsqu'il est parlé de la postérité aussi nombreuse que les étoiles ou le sable, il est question des Juifs. Et si nous examinons la chose de plus près encore, nous verrons que le moment où la semence unique nous est présentée est après que le type de la mort et de la résurrection a été pleinement donné à la personne d'Isaac. Genèse 22. Emblème de Christ qui, étant ressuscité, fait entrer les gentils dans la pleine bénédiction de Dieu, indépendamment de la loi. Et je suis persuadé que ce point est si peu compris qu'il ne sera pas inutile de le considérer brièvement en passant, outre ce qui a déjà été placé devant nous. Il n'y a pas une portion des vérités fondamentales sur laquelle les chrétiens sont en général plus faibles que dans leur compréhension de la position dans laquelle la résurrection de Christ amène le croyant. C'est la mort de Christ qui met fin à toutes nos questions. Si c'était notre propre mort, elle serait comme jugement notre ruine. Mais la mort de Christ a précisément une efficace tout aussi grande, et même infiniment plus grande, dans le sens de la grâce. Et comme Christ, en ressuscitant, entre dans une condition nouvelle, où il ne peut y avoir aucune condamnation, le croyant passe devant Dieu dans la même sphère. La puissance de Dieu dans la mort de Christ ôte le mal. La puissance de la résurrection de Christ nous introduit dans la sphère du bien dont il est le centre et la tête. Dans ce quatrième chapitre, l'apôtre aborde un autre sujet. Si la loi et les promesses étaient opposées dans leur nature, non pas contradictoires, mais totalement différentes dans leur portée et leur objet, quel était l'état du croyant sous l'Ancien Testament? La réponse se trouve au commencement du chapitre 4, et cela particulièrement en vue de la condition dans laquelle tous les croyants juifs avaient été et de ce qu'est leur relation actuelle avec Dieu en vertu de la rédemption. Or je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. C'est un principe vrai à l'égard des croyants sous ce que nous pouvons appeler l'ancienne alliance. Ils étaient héritiers, sans doute, et la bénédiction doit être leur portion. Mais l'héritier n'est pas plus que le serviteur ou l'esclave aussi longtemps qu'il est mineur, car c'est là la force du mot en bas âge. C'est le mot qu'on employait chez les anciens, comme notre terme légal l'est encore, pour désigner une personne qui n'est pas arrivée à l'âge fixé par la loi et qui est incapable de conclure des contrats ou des engagements ou d'agir pour elle-même. C'était précisément la position d'un ancien sous la loi. Il n'était pas arrivé à l'âge mûr. Il était réellement héritier destiné à s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y avait pas de différence quant à cela. La conversion et la régénération sont les mêmes dans tous les temps et dans toutes les dispensations. Il peut y avoir aujourd'hui un plus grand degré de plénitude, de simplicité et de joie. Mais quant à la substance de la chose, même depuis la chute, avant le déluge et après, soit sous une loi, soit sans loi, l'héritier était en vérité seigneur de tout. Il doit réellement avoir part dans le royaume de Christ, et régner avec Christ. Mais si nous cherchons quelle est sa condition pendant qu'il est dans ce monde, nous la trouvons décrite ici comme celle d'un esclave. Le propos de Dieu est que, lorsque la gloire viendra, il ait une place glorieuse et bénie. Et pendant qu'il était dans ce monde, il était en bas âge, sous des tuteurs et des curateurs, jusqu'à l'époque fixée par le Père. La première expression se rapportant, je pense, à la personne, la seconde à ses possessions. Il est sous cela jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, il l'applique particulièrement à ce qu'ils avaient été comme croyants juifs, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Rien ne saurait être plus net que cela. Tout est ajusté avec une clarté et une force divine. La bénédiction d'un saint de l'Ancien Testament est en vue, ou celle de quelqu'un qui connaissait Christ durant les jours de sa chair, parce qu'il n'y avait point entre eux de différence essentielle. Pierre, Jacques et Jean, tous étaient alors en bas âge. Il est vrai que Christ était présent en personne et qu'il y avait un immense surcroît de bénédictions. Leurs yeux voyaient, leurs oreilles entendaient ce que des prophètes et des rois avaient désiré de voir. Néanmoins, ils étaient encore en bas âge. Ils n'étaient pas délivrés de la loi. Ils étaient encore gardés, assujettis par ses injonctions et ses ordonnances. Et la terreur qui en résultait les gardait toujours dans une mesure d'incertitude et de ténèbres. Et il devait en être ainsi. Un homme sous la loi n'avait pas le droit d'être totalement heureux. Si en quelque manière j'ai affaire avec la loi, je dois sentir l'effet de la loi. Si j'ai conscience d'avoir manqué sous la loi, je dois sentir sur mon esprit le poids de sa condamnation. Il en était ainsi des saints sous l'ancienne alliance. Ils étaient asservis parce qu'ils étaient sous des tuteurs et des curateurs. Mais, quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il était tout à fait nécessaire que Christ soit homme et un juif. S'il n'avait pas été un homme, il n'aurait pu y avoir aucune base pour venir à la rencontre d'un enfant d'Adam, quelles que fussent les circonstances. Et s'il n'avait pas été juif, où aurait été tant la loi que les promesses? Mais étant les deux, une chose infiniment plus grande est introduite maintenant, la rédemption. Il vint comme un homme et sous la loi, mais le but était afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Dieu avait trouvé bon de mettre le Juif dans une place spéciale pour des buts particuliers, et le résultat de cette épreuve fut que les Juifs amenèrent un plus grand déshonneur sur le nom de Dieu que même les pécheurs d'entre les nations. Nous savons que si jamais il y eut un peuple déterminé à se détruire et à abandonner ce qu'il tenait de la miséricorde divine, ce fut Israël. S'il y avait une idole parmi les nations, ils en prenaient le modèle. Et le roi Achaz alla même jusqu'à commander que toutes les offrandes soient offertes sur l'autel qu'il avait imaginé d'après le modèle de l'autel païen qu'il avait vu à Damas, insultant ainsi l'autel de Dieu. Le grand crime pour lequel Israël a été transporté à la fin, c'est qu'ils avaient dressé les veaux d'or. À Jérusalem, dans le temple, les Juifs renouvelèrent le péché d'autrefois pour lequel Dieu les avait frappés dans le désert. Ils ne furent pas fidèles à Dieu, mais ils s'attachèrent à l'idolâtrie comme à un héritage trop précieux pour être abandonné. Les Juifs, qui avaient été appelés pour être un témoignage spécial pour Dieu contre le culte des images, ne se contentèrent pas de suivre leurs propres idoles, mais ils voulurent adopter celle des voisins païens qui les entouraient, et Dieu les emporta. C'est ainsi qu'il nous est parlé dans les livres des rois et des chroniques du péché de Jéroboam, par lequel il a fait pécher Israël. Ce fut la chose spéciale dont Dieu gardait le souvenir. Toutes sortes de nouvelles dynasties se succédèrent en Israël. mais peu importe ce qu'elles étaient, même si ce n'était qu'un homme qui régnait pour un mois, c'était toujours ce même péché uniforme, le péché de Jéroboam, dont Dieu se souvenait, et de cette idolâtrie la plus insultante de toutes, le veau d'or. C'était un péché délibéré devant sa face. C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Jusque-là, nous voyons ce qu'Israël a été. Et si nous regardons la prophétie de Jérémie, nous verrons que Dieu reproche à Juda qu'Israël l'infidèle s'est justifié en présence de Juda, car Juda était beaucoup plus coupable. Mais nous ne devons pas limiter à Israël cette histoire du mal. Il nous faut lire la Bible comme une leçon au sujet du cœur, la leçon de ce qu'est l'homme devant Dieu. Et ce qu'elle nous apprend d'Israël et de Juda, appliquons-le à nous-mêmes. Dieu me montre là ce que je suis. C'est là la sorte de matière dont mon cœur est composé. C'est là ce que fait la nature humaine quand Dieu la met à l'épreuve. L'idolâtrie régnait donc, et, comme nous le savons, calamité sur calamité s'abattirent sur son peuple. Ils furent transportés en captivité à Babylone, et plus tard, le résidu fut ramené de la captivité pour recevoir le Fils de Dieu. Quand il vint du ciel, ce fut dans la plénitude de la grâce. Le péché était entré par la femme, et ici nous avons le Sauveur. Et la loi, ayant introduit ce qui était accablant pour les espérances d'un pécheur, Christ vint, né de femme, né sous la loi. Mais c'était pour racheter ceux qui étaient sous la loi. La simple observation de la loi n'aurait pu racheter personne. Il était essentiel, pour le maintien des droits et du caractère de Dieu, que le Seigneur montre qu'il était homme parfait sous la loi, parfait fils de l'homme, parfait israélite, parfait fils de Dieu au-dessus de la loi, parfait en toutes choses. Mais, quelle que puisse être sa gloire et la place dans laquelle il est descendu, le but de tout était la rédemption, de racheter par lui ceux qui étaient sous la loi. Dieu attendait de pouvoir les introduire dans la place qu'il voulait que son peuple occupe. Dieu ne prenait pas plaisir à voir des enfants trembler. Il attendait le moment béni où la mort de Christ donnerait un juste titre pour délivrer son peuple de cette condition, pour l'introduire dans un nouvel état de choses, quand le lien de la loi serait brisé pour toujours par la mort de Jésus, Fils de Dieu. Et il en fut ainsi. Il racheta donc ceux qui étaient sous la loi. Et ici, une autre chose apparaît. Dieu ne peut jamais se contenter d'une délivrance négative. C'était « afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption ». Mais même cela ne le satisfait pas, car il aurait encore pu y avoir la pensée que cette adoption comme fils n'était que pour les croyants en Israël, que c'était ce dans quoi ils étaient introduits maintenant. Mais l'apôtre se tourne vers les gentils et dit « Et, parce que vous êtes fils, changeant la personne du Verbe et s'adressant aux Galates de la manière la plus marquée, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père !» Ici nous apprenons très clairement que le Juif, par la loi, n'avait fait qu'entrer dans une position d'asservissement. C'était tout ce que la loi pouvait faire pour lui. Il était impossible qu'il puisse en être autrement. La loi pouvait condamner ce qui était mal et rien de plus. Mais maintenant Christ est venu, et en Christ il y a la puissance pour délivrer, et c'est ce dont l'homme ruiné a besoin. Il y a une puissance qui délivre, et Dieu l'introduit en Christ. Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils. C'était Dieu lui-même qui introduisait cette œuvre bénie, et même c'est en cela qu'il prend plaisir. Quand la loi a été introduite, quoiqu'elle ait été donnée de Dieu, il dit pourtant simplement qu'elle a été ordonnée par des anges. Il emploie seulement des serviteurs pour l'œuvre, des serviteurs qui sont comparativement à distance, qui n'ont jamais eu le lien de la vie et l'esprit, le lien de Christ lui-même que nous avons. Les anges peuvent être saints, mais un ange ne sort jamais de la condition de serviteur. Ils sont même serviteurs des saints, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Mais maintenant, quand nous en venons à entendre parler de la rédemption, c'est Dieu qui est montré comme en étant la source, d'une façon très évidente et très complète. Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, vous gentils, etc. Naturellement, seuls les gentils qui croient sont en vue, mais sans qu'il soit question que nous soyons mis sous la loi, sans la moindre pensée de nous soumettre au procédé disciplinaire que les Juifs avaient connu. Le croyant juif avait été dans la condition de quelqu'un en bas âge, d'un esclave sous la loi. Le gentil ne l'a jamais été. Il est vrai qu'il était esclave, mais d'un caractère totalement différent. C'est à l'idolâtrie qu'il était asservi. Les Juifs étaient asservis à la loi. L'un, donc, était asservi à une chose qui, en elle-même, était intrinsèquement bonne, mais ruineuse pour lui. L'autre était asservi à ce qui était de Satan et n'avait rien qui l'unisse à Dieu. Plus le gentil était religieux, plus complètement il était l'esclave de Satan. Nous verrons bientôt la force de cela. Dans le cas des Juifs, ils avaient été sous ce système de tuteurs et curateurs. Ils avaient su ce que c'était, quoiqu'ils fussent réellement des croyants, d'être seulement à distance, loin de Dieu, incapables de s'approcher de Dieu et d'épancher leur cœur devant lui comme ses enfants. Ils pouvaient crier à lui, faire monter vers lui leurs gémissements. C'est ce que vous avez dans les psaumes, qui sont remplis de cette confiance bénie en Dieu. Mais c'est la confiance de serviteurs qui comptent sur Dieu pour intervenir en leur faveur, qui espèrent en Dieu, mais qui ne sont pas encore capables de le louer. Ils ne sont pas approchés de lui. Même dans quelques-uns des psaumes les plus élevés, il prie que la colère de Dieu ne soit pas enflammée contre eux à jamais. Ils ne savent pas qu'elle est entièrement ôtée pour eux. D'un autre côté, ils entrent dans les sentiments judiciaires de Dieu contre ses ennemis. Ils attendent, comme si c'était un privilège, le moment de soumettre les ennemis de Dieu, et ils lui demandent de les rendre comme la balle chassée par le vent, de se servir de son peuple et de leurs chiens, en sorte qu'ils boivent du sang des ennemis, pensée remplie pour nous de la plus pénible association d'idées qui répugnerait à tout chrétien. Il y a même bien des personnes qui sont en danger de condamner la parole de Dieu parce que de tels désirs s'y trouvent. Le langage est parfaitement adapté à des âmes sous la loi, mais maintenant nous sommes sous la grâce, et nous ne sommes plus sous la loi. Et nous prions pour les personnes qui nous font du tort et qui nous persécutent. Tandis que tout le ton des psaumes, quand ils parlent du bonheur d'écraser les petits-enfants de Babylone contre le roc, est tout autre chose que de rendre le bien pour le mal. C'est le mal qui trouve son juste jugement. Je maintiens que toutes les expressions dans les psaumes sont de Dieu, que toutes ces imprécations sont divines. Chaque malédiction, menace et avertissement, toute cette sympathie avec la rétribution divine est autant de Dieu que l'intercession du chrétien maintenant pour ses ennemis. Mais elles ne conviennent ni au même temps ni aux mêmes personnes, et Dieu n'y accomplit pas le même but. Tant que Dieu prolonge le jour de la grâce, toutes ces choses sont entièrement inapplicables. Elles ne sont pas ce que Dieu manifeste maintenant. Elles demeurent vraies à toujours. Chacune en elle-même est toujours une chose juste, mais le fait est que Dieu a maintenant, en Christ, introduit la grâce pleine et souveraine. Et par conséquent, Dieu met ceux qui appartiennent à Christ dans la position de manifester non une justice terrestre, mais la grâce céleste. Le règne, selon la justice, est en réserve et sera un jour accompli à la lettre. Et Dieu emploiera son peuple Israël comme l'instrument spécial pour exécuter ses jugements divins. Considérons l'Apocalypse. Les voies de justice apparaissent après que l'Église a été enlevée au ciel, après que les 24 anciens sont sur des trônes et couronnés devant le trône, représentant les rachetés célestes que Dieu appelle maintenant tant d'entre les Juifs que d'entre les gentils. Dieu commence alors à agir sur son ancien peuple, Israël, qui le comprend, et crie à Dieu et lui demande « Jusque à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ? N'est-ce pas là la contrepartie du ton des psaumes ? Et pourtant, ce sont des saints de Dieu. Et faites attention aux conséquences quand on confond maintenant ces dispensations. La Bible demande qu'on l'expose justement. Si vous prenez des parties de l'Écriture et que vous les appliquiez mal, d'une manière ou d'une autre, vous serez un ouvrier qui aura certainement à avoir honte. Hélas, comme les hommes pervertissent le serment sur la montagne, ils voient certaines expressions prononcées par le Seigneur pour ses disciples. Ils le trouvent insistant sur le fait de ne pas résister au mal, de ne pas rendre coup pour coup, de n'employer aucun moyen terrestre pour revendiquer leurs droits ou les défendre contre les violences personnelles, le dépouillement de leurs biens, etc. Les choses mêmes que les hommes ressentent comme une violation de leurs droits. Si un chrétien faisait de cela un code pour tous les hommes maintenant, que pourrait-il y avoir de plus contraire à la pensée de Dieu? Ce serait essayer de gouverner le monde d'après les principes de la grâce. Si vous en faisiez l'expérience sur les hommes tels qu'ils sont, le monde deviendrait une scène de brutalité plus terrible encore que dans le temps de la grande rébellion en Angleterre, quand ils essayèrent d'agir sur le principe de la rétribution que présentent les psaumes. On plaçait alors les chrétiens sous l'esprit et le principe de la loi, mais essayer de placer le monde sous ce qui était prévu pour diriger les enfants de Dieu produirait une confusion encore pire. On pardonnerait aux fripons et aux coquins, et on les caresserait, on permettrait aux voleurs de s'approprier plus au gré de ses désirs. Il est évident que de tels principes n'iraient jamais pour le monde, et en fait, ils n'étaient pas prévus pour le monde. Des hommes mal instruits peuvent s'écrier que c'est là ôter la Bible, ou une grande partie de la Bible, et c'est une alarme totalement fausse. C'est seulement un effort pour les amener à comprendre la Bible, pour leur enseigner la signification réelle de ces diverses parties. Le point pratique est que les gentils, tels que nous-mêmes, ont été retirés net de toute la condition de péché dans laquelle nous étions. Nous n'étions pas sous la loi, mais nous étions sous le péché, dans une insubordination totale à Dieu, sous toutes sortes de mal. Ce n'était peut-être pas nécessairement un mal ouvert, un mal moral, mais nous vivions pour nous, et nous vivions sans Dieu, et c'est là une manière bien douce de décrire la condition dans laquelle nous avons tous été. Ces Galates avaient été sous les formes les plus grossières de l'ignorance et de l'idolâtrie, mais tel est l'esprit de grâce qu'ils avaient été complètement retirés de tout cela, et, par la foi en Christ, ils avaient été faits fils de Dieu, sans passer par aucun degré intermédiaire. Ils s'étaient repentis, ils avaient reçu l'Évangile, ils étaient devenus enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père », l'expression même que lui, le béni, employait dans sa pleine communion avec son Père. Voyez quelle est la place où nous avons été amenés. Que celui qui, le jour auparavant, n'était qu'un misérable gentil, souillé et idolâtre, soit autorisé par le Saint-Esprit à prononcer la même douce expression de relation « Père ». Quelle place Dieu a donnée à ses enfants maintenant ? Et la chose est présentée non en parlant des Juifs dont il a été expressément dit qu'ils avaient été rachetés de leurs conditions sous la loi et introduits dans la relation de fils. Mais le Saint-Esprit s'étend quand il parle des gentils. Il aurait pu y avoir l'idée que le gentil, vu qu'ils n'avaient rien connu de la loi, ne pouvaient pas être introduits tout d'un coup dans une place si bénie comme le juif croyant. Mais il n'en est rien. Le juif devait être retiré non seulement du péché, mais de dessous la loi. Le gentil n'avait que son péché dont il devait être retiré. Et ainsi l'œuvre s'opérait en lui, si je puis dire, beaucoup plus simplement. Le juif avait à désapprendre, le gentil n'avait qu'à apprendre. Tout ce que le gentil avait, c'était uniquement la nature corrompue jusqu'à sa conversion, et alors il était aussitôt amené dans la lumière de la grâce de Dieu. Tandis que le juif devait être amené hors de la sphère de la loi, et il était gêné, peut-être entravé, par les restes du système légal qui s'attachait encore à lui. Rappelez-vous que celui qui comprend la grâce n'affaiblit jamais la loi. C'est un très grand péché de le faire. La doctrine de la foi établit la loi. Si vous pensez que le chrétien est sous la loi et qu'il peut néanmoins être sauvé et heureux, vous détruisez en réalité l'autorité de la loi. Les croyants juifs, sous la loi, n'ont jamais eu la pleine paix ni la pleine joie que l'Évangile apporte maintenant. Et partout où vous avez maintenant des âmes sous la loi, dans leur esprit, il se peut qu'elles soient sauvées, mais elles n'ont jamais ce plein repos auquel l'œuvre de Christ leur donne droit. La raison est très simple. Quoiqu'elles aient reçu Christ, elles ne font pas l'application de son œuvre. Si elles le faisaient, elles verraient qu'un des effets de la rédemption, c'est de délivrer une personne, non pas de la soumission à Christ, mais de la rendre plus que jamais soumise à la volonté de Dieu, et pourtant sans être placée sous la loi. C'est pourquoi l'apôtre montre qu'ils étaient amenés dans la place de fils. Or, la position de fils est une soumission intelligente à son Père. Le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils, enseigne à crier « Abba Père », mais non plus à dire « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est là le cri poussé du cœur de quelqu'un qui est sous la loi, qui crie dans son angoisse d'esprit, ayant toujours le sentiment qu'il y a quelque chose dont il a à être délivré, un peu consolé parfois, puis abattu sous le poids de la loi. Au contraire, quand l'âme connaît la plénitude de bénédiction que Dieu nous a donnée en Christ, le cœur est conduit par le Saint-Esprit à crier « Abba, Père !» C'en est fait de la chair aux yeux de Dieu, et nous avons le droit de dire que nous en avons fini avec elle nous-mêmes. Dieu ne peut se fier à moi, et je ne puis me fier à moi-même. Mais je sais que je puis me fier à Dieu en son Fils bien-aimé, qui a aboli le péché par le sacrifice de lui-même, en sorte qu'il y a un parfait repos pour le cœur. Le cri de l'Esprit est « Abba, Père ». C'est ainsi que l'enfant de Dieu est conduit à employer le langage propre à sa relation avec Dieu. D'autres peuvent admirer la création de Dieu, peuvent insister sur les merveilles des cieux et de la terre. Mais le cri de l'Esprit est « Abba, Père », et vous pouvez le sentir beaucoup mieux que vous ne pouvez l'exprimer. Qu'est-ce que le plaisir d'insister sur les attributs de Dieu ou sur les effets extérieurs de sa puissance comparé à la joie du cœur qui sent la relation divine? C'est ainsi que nous voyons l'apôtre rappeler au sein de la Galatie leur relation avec Dieu. C'était le cri que le Saint-Esprit produisait et le cri adapté à la relation, et dans la conscience de laquelle ils avaient été amenés, ayant été retirés de leur idolâtrie. Car tout dépend de ceci, de la simplicité avec laquelle mon âme reçoit cette grande vérité que, quant à tout ce que je suis, cela a été jugé sur la croix. Et maintenant, il y a un nouvel homme devant Dieu, et un nouvel homme devant moi, Christ ressuscité d'entre les morts, et j'ai le droit de dire, c'est celui en qui je me tiens devant Dieu. Pouvons-nous avoir un autre cri que celui-là, « Abba, Père !» Mais ensuite, il y a un avertissement aussi bien qu'une conclusion. La conclusion est, de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et, si fils, héritier aussi par Dieu. Tout comme au chapitre 6 où il dit « Frère ». Quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, Vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur. Le Saint-Esprit l'applique ensuite à l'âme de chacun individuellement, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Ainsi, si Dieu donne un avertissement qui est individuel, il donne une consolation, et il la donne avant l'avertissement, de sorte que, est-il dit, comme le résultat de tous les raisonnements, tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier aussi par Dieu. Remarquez bien, ce n'est pas ce qu'ils seront, ni qu'ils sont toujours en bas âge dans ce monde, et qu'ils auront leur bénédiction dans le ciel, mais tu n'es plus esclave, mais fils. Si vous étiez juif, vous seriez l'esclave de la loi. Mais maintenant, peu importe ce que vous étiez, si vous aviez été un idolâtre, vous avez, en recevant Christ, passé dans la plénitude de la bénédiction qui est due par Dieu à son Fils bien-aimé. Dieu n'a pas de bénédiction trop grande pour le cœur qui s'incline devant lui. Si fils, héritier aussi par Dieu. Il élargit la sphère. Ce n'est pas seulement héritier de ceci ou de cela, mais héritier par Dieu. Ce que Dieu possède, ce que Dieu aura dans le jour béni qui va venir, il le partagera avec ses enfants. Et c'est là ce que signifie la dernière phrase d'Éphésiens 1, verset 18.
Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints.
Voyez aussi Romains 8. Telle est la place à laquelle Dieu nous destine, rien de moins. Il n'a pas la pensée de rien retenir. Comme la grâce a été, ainsi la gloire sera, la réponse de Dieu à l'insinuation du diable dans le jardin d'Éden. Maintenant vient l'avertissement. Mais alors, ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Mais maintenant, ayant connu Dieu, mais plutôt ayant été connu de Dieu, etc. Il est clair qu'il veut parler des gentils. Il ne dit pas « quand nous ne connaissions pas Dieu » parce que les Juifs avaient une certaine connaissance de Dieu sous la loi. Mais, ne connaissant pas Dieu, vous étiez, etc. Ce qui concerne évidemment les païens. Comment retournez-vous de nouveau aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore, de rechef, être asservis? Pesez bien cette expression. Il ne peut y avoir une déclaration plus solennelle pour ce qui regarde l'état actuel de la chrétienté. Qu'entend-il en disant que ces saints de la Galatie retournaient aux faibles et misérables éléments auxquels ils voulaient encore de nouveau être asservis? Ils ont dû être complètement choqués. Retourner à l'idolâtrie? Comment cela se pouvait-il? Ils pouvaient dire « Nous ne faisons que prendre le principe de la loi. Appelez-vous cela les faibles et misérables éléments ?» Eh bien, dit l'apôtre, « quand vous étiez inconvertis, vous adoriez de faux dieux, des idoles. Mais si vous, chrétiens, vous allez prendre des principes juifs, même ces jours de fête ou d'autres principes de la loi, vous êtes en principe des idolâtres, retournant de nouveau à cette idolâtrie de laquelle Dieu vous avait délivré. » Comment cela? La raison est claire. Ce n'est pas que la loi en elle-même pouvait être idolâtre, ni que Dieu n'usait pas de patience envers les préjugés de ceux qui avaient été juifs. Mais voici des croyants d'entre les gentils qui recouraient à ces éléments légaux. Qui le leur avait dit? Ces choses avaient perdu toute leur signification, et un gentil n'avait rien à faire avec elles. Elles avaient leur valeur comme ombre de Christ, avant que Christ vînt. Mais se détourner de Christ ressuscité d'entre les morts, vers ce qui n'était que des ombres, c'était aux yeux de Dieu retourner à l'idolâtrie. Toutes les fois que la chrétienté professante prend la loi avec ses cérémonies extérieures et ses ombres, quoique tout cela ait été très bien sous la loi, et les adopte comme culte chrétien, elle est inconsciemment, mais réellement, tombée dans l'idolâtrie. Supposez que quelqu'un dise « Je me trouve bien froid en adorant Dieu, et j'ai besoin de quelque chose pour réveiller mon âme. Quoi de plus convenable que d'avoir un portrait de mon Sauveur, afin que, en le contemplant avec sa couronne d'épines, je sente plus profondément son amour, et que les affections de mon cœur soient plus attirées à lui. C'est là de l'idolâtrie maintenant, si même cela n'a pas été le cas en tout temps. Mais il y avait certaines de ces choses permises sous le système légal, à cause de la dureté de leur cœur. Ils avaient des sacrifices d'animaux et une sacrificature terrestre. Mais pour un gentil, se tourner vers ces choses, c'est, aux yeux de Dieu, retourner à l'idolâtrie. Le Saint-Esprit insiste là-dessus auprès des croyants de la Galatie, car le mal n'était encore qu'en germe. Si cela est vrai, quel péché de prendre part à ce qui est de l'idolâtrie au jugement de Dieu, de l'appuyer ou de le sanctionner d'une manière quelconque. Le mal augmente très rapidement. Il n'est pas maintenant limité au papisme, mais les pas qu'on a faits ces dernières années vers les principes catholiques sont la même chose. S'il renferme même quelques éléments religieux, c'est un élément idolâtre qui emploie certains sentiments de crainte dans notre nature déchue pour amener les gens à éprouver plus de révérence dans le culte. C'est précisément la chose qui est opposée à la foi. L'essence de notre bénédiction consiste en ce que l'âme jouit de Christ par la parole de Dieu, le Saint-Esprit donnant cette jouissance de Christ, indépendamment de tout ce qui agit sur l'œil ou l'esprit naturel. Car c'est précisément cet abus-là que l'apôtre dénonce ici si fortement et qu'il appelle l'élément faible et misérable. Ce que Dieu estime dans le culte serait maintenant, en général, considéré comme maigre et pauvre, car cela suppose l'absence de décorations extérieures et de toute excitation afin que ce soit la puissance réelle du Saint-Esprit agissant parmi les saints. Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. C'est ne pas faire cela qui est devenu étonnant aujourd'hui. Hélas, le mal qui existait chez les Galates est regardé comme une preuve de religion. Paul signale cette observance non seulement comme une erreur, mais comme une preuve d'idolâtrie. Dans le paganisme, on faisait grand cas de ces fêtes, et Dieu les permettait dans le judaïsme, parce que les Juifs avaient une sorte de religion adaptée à leur état et au sanctuaire terrestre. Mais maintenant, tout est complètement changé, et l'observance de fêtes et de saisons spéciales, comme un moyen de plaire à Dieu, est rejetée avec autorité par le Saint-Esprit. Je crains, quant à vous, que peut-être je n'ai travaillé en vain pour vous. N'est-ce pas une chose très solennelle que, quel qu'ait été le mal chez les Corinthiens, l'apôtre ne dit jamais à leur sujet « je crains pour vous ». Si nous avions connu une assemblée ayant en son sein autant de mal moral et de mal flagrant, où quelques-uns même cherchaient à renverser la résurrection, n'aurions-nous pas dit qu'il n'y a jamais rien eu d'aussi lamentable que leur état? Mais l'apôtre leur écrit dans la confiance qu'ils seraient délivrés de ce mal. Non qu'il ne le sentît pas profondément, et il place devant eux leurs conditions critiques, mais il leur écrit dans l'assurance que Dieu toucherait leur cœur. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Et ensuite, il se met à s'occuper de leur conduite, après avoir touché cette grande corde dans leur cœur. Mais quand il écrit aux Galates, il n'y a pas une telle expression. Plus tard, le Saint-Esprit lui donne de la consolation à leur égard, mais c'est bien loin de ce qu'ils sentent en écrivant aux Corinthiens. Le légalisme est une chose insidieuse, parce qu'il a une belle apparence. Lorsque le cas est tel, les hommes s'imaginent qu'ils deviennent plus saints pratiquement, mais le fait est que c'est le contraire. Ce qui produit la vraie sainteté, c'est que ce n'est pas seulement le nom d'un jour, ou d'une heure, ou d'une saison, ou d'un lieu, mais c'est Dieu opérant dans l'âme, et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, et cela parce qu'elle est sanctifiée par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Dieu introduit le croyant dans sa propre présence et le place là comme un enfant. Des personnes peuvent se trouver respirer en réalité la respiration de vie du papisme, tout en pensant en avoir la frayeur la plus salutaire. Examinons nos propres âmes. Nous pouvons toujours regarder à Dieu et compter sur la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Satan déploie comme il voudra sa rage, Quoi qu'il en soit, Dieu sera toujours Dieu et sera toujours fidèle à sa propre parole et à son esprit. L'apôtre en vient maintenant à ses propres rapports avec les saints de la Galatie, et il se sert du reproche même auquel les docteurs légaux les avaient poussés contre lui, comme d'un argument de plus pour la vérité. Ils avaient, par leur démarche, excité les Galates contre l'apôtre, parce qu'il avait, pour ainsi dire, cessé d'être juif, déclarant qu'il en avait complètement fini avec la loi. C'est à cela qu'il répond maintenant. Il est important de comprendre comment on en a ainsi fini avec la loi. Ce n'est pas que l'apôtre ne l'utilisait pas, mais alors le point est, comme il le dit à Timothée, qu'on doit en user légitimement pour parler aux impies, aux iniques, etc. Mais il le blâmait parce qu'il ne défendait pas ses privilèges juifs. Il pouvait se servir de la loi de Dieu, et il s'en servait, en effet, pour des principes moraux et pour agir avec les hommes, mais non comme d'un titre, ni comme d'une règle pour lui-même. Cela aurait été abaisser le fondement et le caractère de sa bénédiction s'il avait condescendu à parler de quoi que ce soit qui lui appartenait selon la chair. La grâce l'avait introduit dans une place beaucoup meilleure. Dans l'homme, la loi et la chair vont toujours ensemble. La croix de Christ a été la fin de l'une et de l'autre aux yeux de Dieu. La chair y a été jugée et condamnée. Elle a été traitée comme une chose morte devant Dieu, morte et ensevelie. Et nous sommes morts à la loi qui s'occupe de la chair. Nous sommes sortis de l'une et de l'autre. Nous ne sommes pas dans la chair, et nous ne sommes plus sous la loi. La chair étant la chose en nous contre laquelle la loi lutte, et la chair étant maintenant par la foi tenue pour une chose morte, il n'y a plus rien dont la loi puisse se saisir. Nous passons hors de sa province dans un autre pays et dans une autre atmosphère. L'apôtre s'empare donc de ce reproche même et le change en un argument inattendu pour l'Évangile. « Soyez comme moi, dit-il, c'est-à-dire, soyez affranchis de la loi, comme étant morts à la loi en Christ. Prenez votre place avec hardiesse et fermeté, avec la certitude que c'est la volonté de Dieu que vous n'ayez aucune relation directe avec elle. Soyez comme moi. Je suis affranchi de sa domination et de ses obligations. Ils disent que je ne mets pas en avant mes droits légaux comme juif. Je le sais et je le proclame. Vous étiez gentil selon la chair, vous n'avez jamais été, en aucune façon, dans une position juive. Ne la cherchez pas maintenant que vous en avez une meilleure, par grâce et dans sa grâce. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère, je vous en prie. Vous êtes gentil, et vous n'avez jamais été, et vous n'êtes pas du tout sous la loi, et moi aussi je suis comme vous. Si seulement vous compreniez votre position d'affranchissement de la loi, comment pourriez-vous désirer passer sous son joug ? Il présente la chose sous une forme concise et très elliptique, mais je crois qu'il faut la comprendre en relation avec ce qui précède et ce qui suit. Vous ne m'avez fait aucun tort. Il craignait apparemment qu'en faisant savoir à l'apôtre qu'il renonçait à la place qui lui appartenait en propre, il faisait quelque chose pour blesser ses sentiments. Pas du tout, dit-il. Vous ne m'avez fait aucun tort. Je reconnais pleinement que, quoique j'ai été comme homme dans la chair, j'ai entièrement abandonné ce terrain. Comme descendant d'Abraham, en ligne directe, sans une seule chose mauvaise et avec une observation parfaite de la loi, je ne serai pas aussi béni que je le suis en Christ. Puis, se rappelant ce qu'il avait dit au chapitre 3, verset 10, « Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction », nous voyons que tout ce qui pouvait être gagné en prenant un terrain légal est une malédiction. Eh bien, alors, pouvait alléguer l'apôtre d'une manière triomphante. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère, je vous en prie. Vous n'étiez que des gentils et vous n'aviez rien à faire avec la loi. Et maintenant, je suis amené dans une position en dehors de la loi tout autant que vous, non pas naturellement en devenant un gentil, mais en étant délivré de la loi en Christ et par Christ. Telle est la bénédiction de la position chrétienne. Ce n'est pas simplement l'absence de loi, mais l'introduction dans l'union avec Christ, ce qui nous élève au-dessus de la loi, et en même temps assure l'obéissance et produit l'amour envers Dieu et envers l'homme, comme la loi ne pourrait jamais le faire. Ainsi, ce que la loi avait en vue est accompli. Romains 8, versets 3 et 4.
Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils, en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair mais selon l'esprit.
Et cela beaucoup plus pleinement que cela n'aurait jamais pu l'être autrement, par le moyen de l'amour de Christ qui étreint l'âme. Et cela est fait, non par le simple procédé négatif, consistant à dire à un homme qu'il n'a pas la loi pour sa règle, mais en le plaçant sous Christ, c'est-à-dire sous la grâce. C'est là ce que la foi fait pour l'âme. Vous savez que dans l'infirmité de la chair, je vous ai évangélisé au commencement, et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût ma tentation qui était en ma chair. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Bien loin de venir avec quelque chose qui sentait la confiance et l'autorité charnelle, il vint comme un homme qui souffrait. Il fait seulement allusion à la chose ici, mais elle est plus particulièrement présentée en 2 Corinthiens 12. Et il est très doux de considérer comment et quand l'apôtre reçut cette humiliante marque en sa chair. Il ne nous est pas dit ce qu'elle était. Ce pouvait être quelque particularité dans sa parole ou son regard, etc. Nous savons que c'était quelque chose en rapport avec son état corporel. C'était en sa chair. Mais il est tout à fait clair, comme il est touchant en même temps de savoir que plus l'apôtre était conduit de Dieu et béni, plus il portait des marques profondes de souffrance, de faiblesse et de honte en sa personne. Les chardes dans la chair suivit son ravissement jusqu'au troisième ciel. L'ange de Satan le souffleta, et Dieu en fit résulter un avantage précieux, afin que l'apôtre soit tenu dans l'abaissement à ses propres yeux, et même aux yeux des autres. Il fut ainsi rendu manifeste que ce qui opérait de telles merveilles dans Paul, c'était la puissance du Saint-Esprit, en dépit de la sentence de mort passée sur toute l'énergie de la nature. Le jour viendra où Dieu rétablira les Juifs, et où il les mettra dans la position de la tête, et les gentils dans celle de la queue. Et alors tout sera établi dans l'ordre convenable, selon la pensée de Dieu. Mais maintenant, dit-il en quelque sorte, il n'en est pas du tout ainsi. Être juif, ce n'est rien. Tout a disparu. Je suis venu ici comme quelqu'un qui souffre et qui est méprisé, et ne faisant en rien valoir ce que je suis comme enfant d'Abraham. Je suis mort à tout cela. Et comme preuve, il se réfère aux circonstances bien connues de sa première prédication parmi eux. Ne se rappelait-il pas que lorsqu'il vint à eux, ce ne fut pas avec puissance ou éclat, mais dans un exercice profond? Au lieu d'attraits extérieurs attachés à sa personne, il y avait ce qui ne pouvait être qu'une épreuve pénible pour lui-même et pour eux. Mais qu'en pensèrent-ils alors? Ils étaient si pleins de l'Évangile, si heureux de découvrir la grâce et la bénédiction de la vérité prêchée, qu'ils considéraient Paul comme un ange. « Vous ne m'avez point méprisé, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. » Quel était donc votre bonheur? Car je vous rends témoignage que, si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. Leurs affections avaient été complètement éloignées de l'apôtre, ce qui est toujours l'effet produit, lorsque de faux docteurs agissent sur les esprits. L'inimitié s'accroît, et toutes les circonstances tendent à la grossir. L'apôtre présente la chose vivement et fortement à leur conscience. « Je suis donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Ils ne sont pas zélés à votre égard comme il faut. » Mais ils veulent vous exclure, ou nous exclure, car c'était en réalité exclure l'apôtre de toute communication avec les saints, élever une barrière entre lui et eux. Ils veulent vous exclure, afin que vous soyez zélés à leur égard, c'est-à-dire afin que tout soit une affaire de flatterie les uns à l'égard des autres. Car la loi est invariablement pervertie pour enfler la chair, quand elle n'est pas employée selon le propos de Dieu. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien, et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. L'expérience de Paul avec les Galates était exactement l'opposé de tout ce qui se trouvait à Philippe. Vous pouvez vous rappeler un passage bien connu dans Philippiens 2, où l'apôtre parle d'eux comme ayant toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. Ils étaient remarquables pour leur esprit d'obéissance quand il était présent, et c'est toujours l'esprit de grâce qui produit cela, comme la loi engendre la servilité et la crainte. Car nous sommes heureux dans la présence de Dieu, nous sommes unis en un seul objet commun, et cet objet est Christ. Il y a ainsi un motif qui gouverne toutes les affections et toutes les actions, et le bonheur, la paix et la soumission sont les effets propres et naturels de la grâce quand elle opère parmi les enfants de Dieu. À Philippe donc, ils avaient toujours obéi, non seulement quand Paul était là, mais beaucoup plus en son absence. Ils travaillaient à leur propre salut avec crainte et tremblement, ayant conscience du grand combat dans lequel ils étaient engagés. Ils n'admettaient pas le vain rêve que, parce qu'ils étaient chrétiens, toute difficulté était passée. Mais au contraire, ayant été amenés à Christ, ils se trouvaient néanmoins en présence d'un ennemi puissant, et dès lors ils étaient rejetés sur Dieu. L'apôtre était parti, mais au lieu d'être abattu, cela les faisait regarder d'autant plus à Dieu, non pas avec quelque orgueil dans le cœur, mais en sentant la nécessité de la dépendance de lui. Le même sentiment qui les portait à reconnaître Dieu en toutes choses les aurait conduits à se servir de l'apôtre et à l'apprécier quand il était là. Lorsqu'il n'y était pas, cela les amenait à dépendre directement et immédiatement de Dieu. Tandis que l'orgueil du cœur qui aurait méprisé l'apôtre expose les âmes à devenir idolâtres d'elles-mêmes, à ceux qui flattent le moi, et ainsi à toutes les tromperies de Satan. Le grand point pour les Philippiens, c'était que Dieu opérait en eux. Pourquoi être abattus comme s'ils n'avaient pas la confiance que celui qui les aimait le mieux opérait en eux, et qu'il aurait soin d'eux d'autant plus qu'ils étaient engagés dans une lutte si acharnée? Chez les Galates, il n'en était pas ainsi. Prenant avantage de l'absence de l'apôtre, ils étaient bientôt tombés dans un emploi charnel de la loi, et avec des docteurs qui s'y complaisaient, ils perdaient rapidement toute affection réelle pour lui, ainsi que la bénédiction dont ils avaient autrefois joui. Certes, cela aurait été mieux s'ils avaient regardé à Dieu et trouvé la force de tenir bon pour lui, quand ils étaient laissés seuls. Toutefois, voyant l'état dans lequel ils étaient, ils auraient souhaité avoir été avec eux. Leur foi avait été ébranlée, et ils se détournaient de Christ pour rendre les choses plus sûres par des ordonnances. Et comme l'apôtre avait traversé beaucoup de choses à leur sujet lorsqu'ils vinrent pour la première fois à la connaissance de Christ, comme il l'avait connu, comme il l'exprime lui-même, de pénibles et profondes angoisses à cet égard, ainsi il retraversait tout cela en esprit maintenant. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Le légalisme avait tellement défiguré la vérité dans leurs âmes qu'ils avaient besoin d'être enracinés et fondés tout à nouveau dans les premiers éléments de la grâce. Ils avaient cessé de tenir ferme la croix, et l'apôtre était en perplexité à leur sujet. Extérieurement, ils pouvaient être très zélés, mais quant à ce qui concernait le témoignage pour Christ, et la jouissance de Christ dans leur âme, tout avait disparu. L'apôtre désirait que l'œuvre soit renouvelée dans leur âme dès le commencement même. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Le sens est qu'ils désiraient agir à leur égard selon ce qu'ils voyaient que leur état demandait. Un effet pouvait être produit, et ils leur parleraient avec douceur, ou bien ils pourraient être légers, orgueilleux et durs, et alors il lui faudrait agir avec sévérité. Il voudrait changer de langage. Comme il le dit aux Corinthiens, « Que voulez-vous ? Que j'aille vers vous avec la verge, ou avec amour et un esprit de douceur ?» Ici l'apôtre était en perplexité à leur sujet. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ?» Il emploie le mot « loi » dans deux sens différents dans ce verset. « Vous qui désirez être sous le principe de loi, n'entendez-vous pas ce que disent les livres de la loi ?» C'est-à-dire des premiers écrits de la Bible. Le mot « loi » est employé quelquefois pour désigner la parole de Dieu en général, telle qu'elle était alors révélée, comme dans le psaume 19. « La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. » Mais quand il en est parlé comme de la chose sous laquelle le chrétien n'est pas placé, c'est le principe par lequel la conscience est placée sous certaines obligations afin d'acquérir une position devant Dieu. C'est cette fausse doctrine que Paul met à nu. C'est pourquoi il dit « Vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ?» Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Vous voyez ici la relation entre la chair et la loi, entre la promesse et la grâce. L'esprit a affaire avec la promesse, la loi avec la chair. Il illustre cela d'après la Genèse. Le Saint-Esprit a pris un soin particulier de se servir de certains faits de l'Ancien Testament que nous n'aurions jamais supposés applicables pour faire ressortir des vérités bénies du Nouveau Testament. Qui aurait discerné la différence entre la loi et la promesse dans la lutte d'Agar et d'Ismaël avec Sarah et Isaac? Non seulement l'Esprit de Dieu la voyait, mais il a voulu que le récit des circonstances soit la magnifique préfiguration des deux alliances, celle de la loi, qui a seulement un enfant de la chair, et celle de la promesse, laquelle, au contraire, enfante dans le temps convenable l'enfant de l'esprit. L'apôtre ne nous laisse pas à nos propres imaginations. Il montre qu'Agar correspond à la Jérusalem de maintenant, la cité des scribes et des pharisiens, la pauvre, orgueilleuse et misérable Jérusalem, qui n'avait aucune liberté envers Dieu, qui gémissait sous la servitude romaine et sous l'esclavage plus amer encore du péché. L'apôtre applique cela à ce qui se passait alors parmi les Galates, qu'ils prennent garde de devenir virtuellement les enfants d'Agar. Ne prenaient-ils pas la place d'être zélés pour la loi? Et pourtant, après tout, ils ne comprenaient pas sa voix, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. La loi était complètement contre eux. Elle montrait clairement que Dieu attachait la promesse, non à ce qui était simplement la descendance de la lettre, mais aux enfants de l'esprit. Tout système religieux qui s'établit sur le pied de la loi prend invariablement un caractère judaïque. Nous n'avons pas besoin de regarder bien loin autour de nous, soit pour comprendre ceci, soit pour l'appliquer. D'où vient que les hommes ont des édifices magnifiques ou un rituel splendide dans le service de Dieu? Sur quel modèle tout cela est-il fondé? Certainement il ne ressemble pas à ceux qui étaient rassemblés autrefois dans la chambre haute. Le temple est clairement leur type, et il leur faut avec cela une classe de personnes spéciales et sacrées. Le principe du clergé étant fondé sur l'idée de la sacrificature judaïque. Lorsque tel est le cas, il faut que le service dépende de ce qui peut avoir de l'attrait pour les sens, déploiement d'ornements, musique, cérémonies imposantes, tout ce qui est de nature à frapper l'esprit de l'homme ou à attirer une multitude, non par la vérité, mais par quelque chose à voir ou à entendre qui plaît à la nature. C'est l'ordre de ce que la parole de Dieu appelle le sanctuaire terrestre. Non pas que le tabernacle ou le temple n'avait pas une signification très importante avant que Christ vienne, mais après cela, leur caractère figuratif devint apparent et leur valeur temporaire prit fin. Et la plénitude de la grâce et de la vérité de Dieu fut manifestée dans la personne de celui qui vint du ciel. Quand Christ fut rejeté de la terre et retourna au ciel, tout fut changé, et la soumission de cœur de la part des enfants de Dieu est transférée au ciel. Pour nous, le vrai sanctuaire, c'est le nom de Christ. Ce que l'Ancien Testament rattachait au temple pour un peuple terrestre, le Nouveau Testament le rattache à Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. S'ils n'étaient même que quelques-uns fidèles à cela, ils en recueilleraient la bénédiction. Il est d'une grande importance de retracer les choses jusqu'à leurs principes. Quand l'apôtre écrivait aux Galates, seuls les germes se montraient. Ils n'avaient pas été jusqu'à avoir des édifices consacrés et des castes d'hommes, avec toute la pompe et tout ce qui se rattachait à un culte religieux adapté au monde, comme nous le voyons autour de nous maintenant, résultat des invasions graduelles de l'erreur dans le corps qui professe le christianisme. Mais pourtant, il y avait le commencement du mal, la tentative d'introduire les principes de la loi pour les imposer aux chrétiens. Et quel est l'effet? Vous ne faites que quitter la position d'Isaac pour tomber dans celle d'Ismaël. S'identifier ainsi avec la loi, c'est être un Ismaël. C'est renoncer aux promesses et devenir simplement un enfant de la servante. Tel est l'argument dont l'apôtre se sert pour reprendre les Galates, qui se flattaient d'avoir fait un immense progrès, mais en réalité s'étaient glissés de la liberté dans la servitude. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Le texte reçu lit « la mère de nous tous », ajoutant les mots « de nous tous ». Nous avons donné le vrai texte qui finit par « notre mère », et le sens est évidemment plus complet et meilleur sans l'adjonction. Il est probable que les mots « de nous tous » ont été ajoutés par ceux qui pensaient renforcer ainsi la relation de tous les enfants de Dieu, tandis que l'auteur inspiré se réfère particulièrement à ceux qui avaient été juifs. Il dit « nous ne sommes plus enfants de la Jérusalem d'en bas ». Mais nous appartenons à la Jérusalem d'en haut. Quant à la Jérusalem terrestre, elle n'a aucun droit sur nous maintenant. Nous appartenons à Christ et par conséquent à la Jérusalem céleste. Car il est écrit, et maintenant il fait allusion à un passage des prophètes, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant. » Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. Le sens peut paraître un peu obscur au premier abord, mais lorsqu'il est compris, il ajoute beaucoup à la force de l'argument de l'apôtre. La liaison n'est pas tant avec Agar et Sarah qu'avec l'allusion à Jérusalem. Voyez Ésaïe, chapitre 54, où Jérusalem, dans un jour à venir, jette un regard en arrière sur ses épreuves passées, et Dieu fait un remarquable calcul de grâce. Il parle du temps où elle fut longtemps désolée, de son temps actuel d'épreuve, quand elle est privée de tous ses privilèges extérieurs. Mais de ce temps-là même, il est dit qu'elle a plus d'enfants que même au temps où l'Éternel était son mari. Dans Osée, il est parlé d'Israël comme étant très coupable, et l'Éternel est sur le point de la répudier. Puis elle est la désolée. L'Éternel l'a abandonné à cause de son péché, mais au temps convenable, avant qu'il y ait aucune délivrance extérieure de la captivité ou de l'oppression sous les gentils, la grâce commence à opérer, et tous ceux qui sont amenés sous Christ maintenant sont comptés sous un certain rapport comme ses enfants. Mais tout est lié avec Jérusalem telle qu'elle sera un jour, Jérusalem qui aura cessé d'être Agar et aura pris le terrain de la grâce. en sorte que, quand elle considère les chrétiens qui seront alors dans la place céleste qui leur est propre, le Seigneur les comptera comme enfants de la femme désolée. Il dira « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. » C'est une comparaison de son état pendant le temps de sa désolation avec son état quand elle avait un mari. Ce dernier temps était celui où elle était reconnue dans sa position terrestre, et elle n'avait alors que peu d'enfants. Mais maintenant, pendant sa désolation, il y a une puissante effusion de la grâce de Dieu et une abondante moisson d'âmes rassemblées qui, par grâce, sont comptées comme ses enfants. L'Épître aux Galates ne traite jamais de ce qui est à proprement parler la position de l'Église, car elle ne va pas au-delà de l'héritage de la promesse. Il y a certains privilèges que nous partageons en commun avec tous les saints. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Nous aussi nous croyons et nous sommes justifiés. Dans ces limites-là, la foi a en substance dans tous les temps les mêmes bénédictions. Nous sommes enfants de promesse, entrant dans la portion de la foi comme l'ont fait avant nous les saints des temps passés. Et c'est là ce que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, bien qu'il y ait en même temps un certain progrès de bénédiction pour nous. Et si vous regardez l'Épître aux Éphésiens, le grand point là, c'est que Dieu fait connaître des privilèges entièrement nouveaux et célestes. Ce n'est sous aucun rapport ce qui est traité dans l'Épître aux Galates. Là, nous sommes sur le terrain commun des promesses. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, il y a certains privilèges distincts et additionnels auxquels Abraham n'a jamais pensé et dont il n'a jamais entendu parler. La formation de l'Église de Dieu, le corps de Christ, la vérité que juifs et gentils seraient tirés de leur position terrestre et faits un avec Christ dans le ciel. C'était le mystère concernant Christ et l'Église, mystère caché dès les siècles et dès les générations, mais maintenant révélé par le Saint-Esprit. Ainsi donc, pour avoir une vue juste de la pleine bénédiction du chrétien, il faut prendre ensemble la bénédiction présentée dans l'Épître aux Éphésiens et celle qui est présentée dans l'Épître aux Galates. Le temps spécial, c'est pendant que Christ est à la droite de Dieu. Même en ce qui concerne les saints du millénium, croyez-vous qu'ils jouiront de tout ce que nous avons maintenant ? Bien loin de là. Ils posséderont bien des choses que nous ne possédons pas, comme la gloire manifestée de Christ, l'exemption de l'affliction et des souffrances, etc. Mais notre appel est totalement différent et en contraste complet. C'est aimer celui que nous n'avons pas vu, nous réjouir au milieu de la tribulation et de la honte. Si un homme ne formait ses pensées à l'égard du christianisme que d'après l'Épître aux Galates, il pourrait confondre les saints d'aujourd'hui avec ceux de l'Ancien Testament, tout en gardant toujours en mémoire la différence que nous trouvons ici, qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, tandis que nous sommes introduits dans la pleine possession de nos privilèges. Mais il y a dans l'Épître aux Éphésiens d'autres choses et des choses plus élevées qui sont appelés le conseil éternel de Dieu, ou qui du moins en découle, en sorte qu'il est bon de distinguer cette double vérité, la communauté de bénédiction dans toutes les dispensations et le caractère spécial du privilège qui s'attache à ceux qui sont appelés maintenant par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Or vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Mais, comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Il montre là le fruit pratique. Néanmoins, il ajoute, que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. Quel coup de mort pour ceux qui soutiennent que l'enfant de Dieu a quelque chose à faire avec la loi, comme étant ce qui détermine sa propre relation avec Dieu. La loi est une arme puissante pour mettre à l'épreuve les impies, mais dans notre propre position, nous en avons fini avec elle. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Telle est la conclusion de l'argument de l'apôtre. Et que peut-il y avoir de plus concluant? D'après la loi elle-même, il contredit toutes les choses pour lesquelles il se servait de la loi. Et avant que la loi ait été donnée à Sinaï, nous trouvons, présentée dans ce type remarquable, la vraie position du chrétien en contraste avec le légaliste. Les Juifs répondent à l'enfant de la servante, et il était alors aussi dans la servitude. L'apôtre montre que telle est l'inévitable portion du gentil aussi qui désire prendre cette place et qui doit même souffrir encore plus des conséquences de sa propre folie dans cette position. Il abandonne la liberté pour être un esclave. Mais que dit l'Écriture ? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. Nous voyons donc ici, de la manière la plus claire possible, comment Dieu combat tous ses efforts pour introduire subrepticement la loi parmi les enfants de la femme libre. Au contraire, pour l'enfant de la femme libre, les promesses lui sont assurées par Dieu lui-même en Christ ressuscité. Ainsi donc, il est de la plus grande importance que nous saisissions clairement notre position et que nous comprenions ce que Dieu nous a donné. Il nous a appelés, même si nous étions juifs, dans une condition tout autre que la soumission à la loi. Il nous a fait devenir enfants de la femme libre et nous a introduits dans la liberté.